Et si déployer autrement notre attention, notre souffle, nos mouvements, nos états de conscience pouvaient renouveler nos relations au vivant et au réel? Et si, face au dérèglement climatique, à ses impacts sociétaux et sanitaires, aux militances que ceux-ci peuvent générer, la resensibilisation pouvait être une voie politique? Être resensible. Je suis Mélanie Jouenne, je suis autrice, conseillère artistique, je pratique et transmets les techniques du corps, du souffle et de l'attention issues du yoga, et je suis membre du collectif de la Turbine. Ensemble, nous avons imaginé être resensible en écho à nos recherches, à nos expériences, au croisement des arts, des sciences, de l'écologie, pour renouveler et incarner d'autres imaginaires. C'est une invitation à entendre des artistes, des chercheuses, des citoyens et des citoyennes qui œuvrent avec ce que nous nommons le sensible. Par sensible, nous entendons la manière dont, à travers l'activation de nos sens, nous nous relions au monde dans une communication permanente, mais aussi la façon dont les événements extérieurs imprègnent les corps et la façon dont on peut s'incarner dans un monde en mutation. Ce sont 4 épisodes pour éprouver nos puissances d'agir, pour tenter de faire corps, individuellement et collectivement, autrement. Être resensible, une série sonore en 4 épisodes, produite par le collectif de La Turbine, avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, écrite et mise en voix par Mélanie Jouenne, co-réalisée avec Julia Passo et Sofia Pavanini au montage.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes.
Épisode 3, le souffle. Si, de fait, le Covid-19 est l'expression spectaculaire de l'impasse planétaire dans laquelle l'humanité se trouve, alors il ne s'agit ni plus ni moins de recomposer une terre habitable parce qu'elle offrira à tous la possibilité d'une vie respirable. Le 6 avril 2020, le média AOC publiait cette opinion du philosophe et historien Achille Mbembe, intitulée « Le droit universel à la respiration ». Respirer est la fonction biologique conditionnelle de tout être vivant, des bactéries qui nous habitent aux champignons avec lesquels on cohabite. La respiration devrait donc être inconditionnelle. Je veux dire, tout être vivant devrait avoir le droit de respirer un air sain, de reprendre son souffle, de ne pas manquer d'air. Encore faut-il que nous soyons en capacité de sentir ce que le souffle nous fait individuellement et collectivement. Si du premier au dernier, c'est bien lui qui anime notre existence terrestre et la transcende, ce souffle, au final, ne fait que nous traverser. Et ça, c'est un impensé. Ce droit à respirer, la respirabilité, terme employé par l'essayiste Marielle Massé dans son ouvrage « Respire », n'est pas acquis. L'activité humaine affecte la santé de la Terre qui, par conséquent, affecte la santé humaine, à commencer par l'une de ses fonctions vitales, la respiration. Quel second souffle trouver ? Est-ce que respirer autrement peut changer la face du monde, l'air du temps ? La respiration porte en son nom l'âme, l'anima antique, l'esprit, le spiro, spiritus latin, le pneuma grec ou l'atman indo-européen pour les langues germaniques. Respirer, c'est reprendre le souffle, du latin classique soufflare, le souffle de vie, se relier à ce qui anime toute existence, se situer dans ce vaste échange atmosphérique au sein duquel l'inspiration des uns fait l'expiration des autres. Marie et Adeline m'ont donné leur définition et m'ont parlé du lien entre la respiration et leur pratique de danse et de yoga.
La respiration est composée d'inspiration et d'expiration. ça c'est la théorie, telle que je l'ai apprise, en médecine et en danse. Je sais qu'il y a plein d'autres composantes. J'ai beaucoup entendu, encore dans ces deux secteurs, c'est-à-dire en médecine et en danse, que l'expiration était la part la plus importante des deux. J'ai peu expérimenté ces histoires de respiration. J'ai du mal à y penser en réalité, notamment quand je danse, notamment quand on fait un tout petit peu de yoga avant ou après la danse. Je sais que ça fait partie des consignes qui peuvent être données et qui paraissent être très utiles. Et par contre, je le vis pas du tout. Je respire vraiment très spontanément, sans y penser. Pour autant, je me sens pas coincée en blocage inspiratoire, par exemple, aussi que ce soit quand je parle ou quand je danse. Donc pour moi, c'est un sujet très spontané, naturel, auquel je réfléchis pas du tout.
C'est faire de l'espace dans son corps et c'est l'air que tu vas donner aussi, la place que tu vas donner à l'air autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre de l'air autour de toi et en même temps de ne pas être seul? J'ai le sentiment que plus tu vas réussir à être dans cette respiration possible pour toi. Pareil, c'est toujours un peu un rapport à ce que tu mets en pratique pour toi, qu'est-ce que ça va infuser chez les autres et dans tes relations interpersonnelles. Donc je crois que la respiration, pour moi, c'est marrant, ça m'évoque aussi le silence, l'écoute. Parce que dans la manière que j'ai d'interagir, je suis quelqu'un qui va être beaucoup comme ça, je vais beaucoup écouter. C'est marrant que ça m'évoque ça, mais ça m'évoque... En fait, la respiration, le fait de prendre le temps de respirer, m'évoque ce temps d'observation aussi, en fait. Ça m'évoque aussi le fait de s'ancrer.
Alexandre Robert, infirmier de santé planétaire comme il se définit, œuvre au sein de l'ONG Climate Action Accelerator à renforcer la résilience des institutions et des systèmes de santé face aux conséquences des changements planétaires. Je l'ai interrogé sur sa définition de la respiration.
Pour moi, la respiration, c'est la vie. D'un point de vue des sciences infirmières sur lesquelles j'ai travaillé, c'est le premier besoin fondamental sur lequel on travaille. Quand quelqu'un ne peut pas respirer, rien d'autre ne fonctionne et la personne est décédée. Un passage à la naissance de l'eau à l'air et ce souffle du début, c'est aussi le souffle qu'on retrouve à la fin. Et quand les gens meurent, on parle du dernier souffle. Et donc voilà, respirer, c'est ce qu'on fait en premier, c'est ce qu'on fait à la fin de la vie. Donc respirer, c'est la vie.
La chorégraphe, danseuse, apnéiste et professeure de yoga Marine Chenet ajoute...
Intuitivement, comme ça, ou un peu du tac au tac, je dirais que pour moi, la respiration, ça va être un usage un peu quotidien. Pour moi, ça m'évoque ce qui nous maintient en vie. Alors que le souffle, c'est peut-être prêter une attention particulière à cette respiration. Pour moi, le travail du souffle, ça va vraiment essayer de passer la respiration au microscope.
À ce propos, Marie, que nous avons entendue tout à l'heure, m'a parlé de la distinction qu'elle fait entre souffle et respiration.
Pour moi, c'est très différent. Le souffle, il y a la notion de souffle de vie, alors que pour moi, la respiration, ça reste un phénomène assez corporel, physique. Il y aurait le souffle de vie, il y aurait pose son dernier souffle, par exemple, quand on meurt. Le souffle qui inspire, et là, je parle de l'inspiration artistique ou métaphysique, ou du moins l'inspiration qui vient du terme inspiré, mais qui évoque autre chose au final. Donc le souffle, je l'associe beaucoup plus à ce type d'inspiration-là qu'à la respiration en elle-même. Même si évidemment, il y a le lien par le mot, et il y a probablement d'autres liens que je ne fais pas forcément.
Lorsque l'on parle de la respiration, la plupart du temps, on parle de l'échange gazeux de tout organisme vivant avec son milieu. En ce qui concerne l'humain, cet échange s'appelle la ventilation pulmonaire, par laquelle on assimile l'oxygène à l'inspiration et on rejette le dioxyde de carbone à l'expiration. Cette ventilation se combine à un processus biochimique assez complexe qui permet, in fine, la transformation du glucose en énergie. La respiration transmet donc à notre organisme l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Les plantes, elles, procèdent par photosynthèse, en un processus inversé, à travers lequel elles utilisent le CO2, pour se fournir en énergie et rejette l'oxygène. Si on n'a pas besoin de penser à respirer puisque c'est naturel, et si penser à respirer mieux c'est déjà trop, écrit Marielle Massé, observer son attitude et sa posture à l'inspire comme à l'expire peut nous renseigner sur notre état nerveux, émotif, mental, sur le milieu dans lequel nous évoluons. Milieu au sens large, au sens social, culturel, mais aussi géographique. Un essoufflement peut informer d'un stress chronique lié à des conditions de travail délétères, par exemple.
J'aurais adoré qu'on m'apprenne à respirer, mais je pense dès que je suis née, en fait, ça me semble une évidence, pour autant qu'on n'a pas mis en pratique dans mon mode éducatif. Non, j'ai à apprendre à respirer, très fortement. Je suis quelqu'un qui ne sait pas respirer. Je me mets à bout de souffle très souvent, je me rends compte que je suis en apnée très souvent aussi, de par ma pratique. Au début où je faisais de la photo, je pense que j'aurais pu faire apnéiste, en fait. Enfin, vraiment, il y avait un truc... de l'ordre, ben, justement, de l'immobilisme, parce que, si tu veux, enfin, la première chose qu'on te dit, c'est sois bien ancré, tes deux pieds dans le sol, coupe ta respiration quand tu vas déclencher, en tout cas, naturellement, tu vas le faire pour pas qu'il y ait de flou de mouvement, justement. Donc, non, je sais pas respirer, clairement. Et j'ai très envie d'apprendre à respirer, mais ça me met à un endroit, je pense, qui me tétanise.
Dans cet extrait, Adeline pointe du doigt un aspect fondamental qui me tient à cœur de préciser. Si on n'a pas appris à respirer, qu'est-ce que ça fait d'exercer sa respiration? Le muscle respiratoire essentiel, c'est le diaphragme. Sous la commande du cerveau, cette membrane se contracte, crée une dépression dans la cage thoracique et permet à l'air d'entrer dans les voies respiratoires. Les poumons suivent, puis le diaphragme se relâche et l'expiration se fait. Le diaphragme, accroché à la cage thoracique, est lié au foie, à l'estomac, au côlon, et impacte donc notre digestion. On peut visualiser, voire sentir le diaphragme et activer son élasticité de différentes manières. La respiration est régulée par le système nerveux autonome, et c'est aussi la seule fonction vitale que l'on peut contrôler. L'inspiration stimule le système sympathique qui augmente les battements du cœur, et l'expiration stimule le système parasympathique qui diminue la fréquence cardiaque. Je résume. On ne peut réduire volontairement les battements du cœur, mais on peut ralentir l'inspiration, l'expiration, et ainsi mettre au repos tout l'organisme, mental inclus, puisque c'est le cœur qui donne le tempo. La physiologie des narines est faite pour respirer. Leurs cils permettent de filtrer, en partie, les impuretés aériennes, de réchauffer et humidifier l'air inhalé, et ainsi d'évacuer, en partie, les particules nocives, d'éviter les infections. En partie, n'est-ce pas? D'ailleurs, si nous nous tournons vers la médecine traditionnelle chinoise, les arts martiaux venus d'Asie, les techniques du pranayama ou du svara yoga, le souffle est le véhicule d'un principe vital, d'une énergie, le ki, le chi ou le prana. Et les entraînements du souffle permettent d'augmenter la captation de cette énergie, de la canaliser. Dans une pratique avancée du yoga, la rétention du souffle peut conduire à la méditation, cet arrêt des fluctuations du mental, de la cognition, qui entraîne la suspension spontanée du souffle. Ces différentes approches témoignent du lien entre la qualité du souffle et nos états internes. Lorsqu'on observe la respiration, lorsqu'on la ralentit, l'accélère, la suspend après une inspiration ou après une expiration, on module les effets du souffle sur notre fonctionnement interne. Le cycle nasal, la fréquence cardiaque, le système nerveux, l'activité métabolique, physiologique et cérébrale, sur l'énergie, vue comme celle qui nourrit nos cellules ou vue comme le principe vital. Et ce changement interne peut aussi avoir des effets externes sur notre interaction avec le milieu, nos réactions aux phénomènes et nos relations aux autres. Il ne s'agit alors pas de respirer mieux, mais que le souffle puisse être le vecteur d'une subjectivation, d'une conscientisation de notre rapport au monde. Adeline craint que la perte de l'attention vers sa respiration coïncide avec une perte d'attention vers le sensible et ses fonctions vitales.
Je pense que c'est une perte du sensible, d'être focus sur tellement d'autres choses qui sont de l'ordre des tâches quotidiennes, de ta to-do list là à faire. Et je crois que je suis quelqu'un qui me laisse vite submerger en fait justement par cette to-do list et être tout le temps en mouvement du coup et à pas accepter que je vais avoir besoin de ces temps de pause qui sont très liés justement à une prise de conscience de ma respiration, de mon corps. Et ce qui peut me faire peur, c'est d'être déconnectée de ces fonctions vitales. Pour autant, dès que je vais m'octroyer le temps de le faire, parce que c'est vraiment ça. Je vois bien que ça apaise pareil, comme ça réalimente l'énergie vitale, ça remet les batteries en charge. Enfin, il y a quelque chose de très bénéfique. Ça rééquilibre aussi sur et ce besoin de mouvement et ce besoin de phase un peu plus stable.
L'extractivisme et l'industrialisation ont occasionné une augmentation du taux de carbone dans l'atmosphère, une pollution des terres, des mers et des airs liée aux pesticides et aux nanoparticules, ainsi qu'une destruction des écosystèmes, donc, et une chute de la biodiversité. Tout ceci a des impacts sur la santé humaine. Coucou la pandémie. En questionnant l'impact du dérèglement climatique sur notre système respiratoire, j'ai rencontré la notion de santé planétaire. Conceptualisée en 2015 par la revue The Lancet et la Rockefeller Foundation, la santé planétaire se définit comme une approche globale de la notion de santé, reliant différentes disciplines scientifiques, biologie, écologie, climatologie, anthropologie, etc., et disciplines pratiques, comme les médecines humaines et vétérinaires, l'architecture, l'agronomie, etc. Elle pose comme fondement que notre santé est indissociable de la santé des écosystèmes et du monde vivant. La respiration est donc notre système d'échange avec le milieu dans lequel nous vivons, un milieu urbain pour 80% de la population française. Selon la World Health Organization, les effets combinés de la pollution de l'air ambiant et de la pollution de l'air intérieur sont associés à 6,7 millions de décès prématurés par an. Selon Santé publique France, le nombre de décès attribués aux particules fines se situe autour de 40 000 par an. De son côté, l'OMS estime que 90% de la population mondiale respire un air toxique. Là aussi, on sait que les personnes aux revenus économiques les plus faibles sont les plus vulnérables aux maladies respiratoires, à l'étouffement, exposés à leur domicile, à leur travail, dans les transports, dans leur quartier. Et là, je pense aux inégalités et aux discriminations structurelles, je pense au stress psychosocial, et je me dis que celui-ci est décidément le symptôme d'une société extractiviste qui peut conduire jusqu'à l'épuisement de la plus précieuse ressource intime de l'humanité, son souffle, sa vitalité. J'écoute Alexandre Robert.
Ce qu'on voit historiquement, c'est que les plutôt riches, dans des villes comme, je vais prendre les exemples de Londres et Paris, sont historiquement plutôt à l'ouest, et les classes populaires et ouvrières à l'époque, plutôt au début du siècle, étaient à l'est. Mais en fait, cette répartition, elle est liée à la pollution de l'air à l'époque, avec le smog issu de la combustion de carbone et d'autres matériaux sur place. Dans ces villes, comme l'air se déplace avec le vent de l'ouest à l'est, on avait une meilleure qualité de l'air à l'ouest, donc c'est là que les riches s'installaient, et une moins bonne qualité de l'air à l'est, et c'est là qu'on construisait des baraquements, des ouvriers qui travaillaient notamment dans ces industries. Et comme ces villes, on va dire que leur taille et leur structure s'est un peu cristallisée au XXe siècle, bah, depuis ça, ça a très peu évolué. Les exemples typiques des villes de banlieue à Paris, c'est, je sais pas, Neuilly, Saint-Ouen ou d'autres. Je suis pas parisien, mais je crois que c'est ça. Et de l'autre côté, le 20e arrondissement ou la Seine-Saint-Denis, on retrouve la même chose, la même forme de répartition à Londres. Et depuis que ça se cristallise dans l'évolution de la ville, après, les riches vont trouver, parce qu'ils ont les moyens, des logements dans ces milieux plutôt riches. Les pauvres vont se retrouver dans les endroits où c'est moins cher, où il y avait déjà les autres pauvres à l'époque. Donc, elle se renforce, cette inégalité. Et au final, les gens qui sont le mieux informés vont avoir tendance à chercher des endroits où la qualité de l'air est meilleure. Et les autres qui n'ont pas conscience de cet impact qui est énorme sur notre santé se retrouvent dans les zones les plus polluées. Et donc, les mieux informés, qui sont souvent les mieux éduqués, se retrouvent en meilleure santé et vice-versa. Cette structure de la ville autour de la qualité de l'air qui renforce les différences sociales, c'est vraiment un facteur de creusement des inégalités. Et s'il n'y a pas d'intervention de la ville pour mixifier les logements et les quartiers, bah, ça sera de pire en pire.
Quelles sont les conséquences de la pollution de l'air sur la santé humaine?
Au niveau populationnel, c'est que tous les problèmes d'ordre cardio-respiratoire et même les décès sont liés au pic de pollution et au pic de chaleur. C'est aussi sur l'exposition au pollen chez les asthmatiques, où en fait la variabilité des saisons va impacter la floraison de certains arbres et peut multiplier le nombre de floraisons et donc d'exposition à des allergènes de pollen. Donc les personnes qui sont allergiques à ces allergènes de pollen peuvent être impactées plus longtemps, plus souvent sur une année, selon les essences d'arbres ou de plantes. On parle beaucoup de la pollution de l'air extérieur, mais ce qui est souvent plus mauvais, hein, ou assez mauvais, c'est la pollution de l'air intérieur. Par exemple, dans des logements insalubres, l'exposition à des moisissures peut favoriser des crises d'asthme, voire même des décompensations plus graves. Il y a certains cas documentés. Et puis, finalement, tous les matériaux et le mobilier qu'on utilise, parfois, certains sont traités avec des composants qui libèrent des gaz, des composants qui libèrent des substances ou des poussières plastiques ou d'autres choses comme ça, qui peuvent aussi impacter la qualité de l'air et notre santé. Et une dernière chose, c'est aussi les produits d'entretien qui, pas très bien utilisés, vont se diffuser dans l'air au moment où on les utilise et impactent la qualité de l'air intérieur. Après, les personnes affectées, c'est la même chose que pour l'air extérieur. C'est des personnes fragiles, enfants, personnes qui ont déjà des problèmes respiratoires, voire des personnes âgées.
Si je vous demande quels sont les producteurs d'oxygène parmi les espèces végétales, vous me répondrez probablement les arbres et les plantes terrestres. Pourtant, une autre espèce absorbe le dioxyde de carbone et produit plus de 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons, c'est le plancton. Marine Chenet, avec sa compagnie One Breath, Un Souffle, mène des projets artistiques en lien avec l'écologie profonde et nous raconte.
En apnée, c'est tout un voyage intérieur, le temps de juste un souffle. Donc, il y a la notion de suspension dedans. Et puis, il y a aussi le fait de la reliance et de l'interdépendance. C'est-à-dire que moi, j'aime à me rappeler et j'aime à le rappeler à chaque fois que je fais des ateliers, que je donne des ateliers, surtout aux enfants, de dire que la respiration, le souffle, c'est le dénominateur commun du vivant. C'est-à-dire que c'est ce par quoi on est vraiment tous reliés. Et donc, pour moi aussi, de vraiment mettre le focus sur la respiration et le souffle, c'est aussi une manière d'essayer de faire sentir physiquement cette interdépendance, de comprendre comment est-ce que sa respiration fonctionne pour éventuellement s'accorder avec les autres respirations qui nous entourent.
Du point de vue d'Alexandre Robert, qui cherche à promouvoir la santé planétaire, il y a un véritable enjeu de conscientisation des personnes aux interconnexions entre respiration, changement climatique et polluants.
L'attention de la santé publique sur la pollution de l'air, elle est, je dirais, renouvelée et bien meilleure qu'avant, dans le sens où, avec l'émergence de la santé publique moderne, on dira après la Seconde Guerre mondiale, on s'est concentré beaucoup sur les comportements individuels, la consommation de tabac et la consommation d'alcool. Mais on avait laissé un peu de côté tout ce qui était environnement et en particulier la pollution de l'air. On a vu de plus en plus ce problème dans des grandes villes. L'Organisation mondiale de la santé, sur la base de recherches et d'académiciens, a commencé à étudier plus le sujet. On a plus compris aussi en quoi l'exposition respiratoire à certains polluants créait des maladies. Ça a fait que récemment, l'OMS a revu ses seuils et a classé la pollution de l'air comme troisième de cause de mortalité au monde. Selon les seuils de l'OMS, en 99% des gens respirent un air vicié. Quand on entend que 99% des personnes sont exposées, on peut envisager que l'impact en termes de maladie en nombre peut être assez énorme. Comme les évidences commencent à venir seulement, mon opinion serait de dire que c'est probablement encore plus grave que ce qu'on pense, mais c'est déjà bien qu'on commence à le prendre en compte.
Améliorer la qualité de l'air pour tout le monde, c'est contribuer à ce que tout être vivant, de son premier à son dernier souffle, puisse prendre part au troc cosmique, comme l'énonce Marielle Massé, puisse conspirer, respirer avec, toute entité, de quelque règne qu'elle soit. Marine Chenet et Alexandre Robert témoignent tous deux qu'ils ne savaient pas respirer avant de l'apprendre, via le yoga, la méditation et l'apnée pour Marine.
La découverte du souffle a changé plein de choses dans ma vie, notamment sur l'alignement et la cohérence dans ma vie. Mais je crois que l'enseignement principal, c'est vraiment justement cet espace entre de suspension, entre l'inspire et l'expire, où on apprend tout d'un coup à répondre plutôt qu'à réagir à ce qui nous arrive. Et tout d'un coup là, on en a l'enseignement effectif et expérientiel, c'est-à-dire qu'on en fait l'expérience à se dire « Attends, si je retiens, peut-être que je ne suis pas obligée de suivre mes habitudes dans lesquelles je me suis quelque part engluée depuis très longtemps, mais que j'ai peut-être en fait plein d'autres possibilités de répondre à ça. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je choisis de répondre. »
Cette notion de cohérence entre l'idée et l'acte m'évoque la cohérence cardiaque dont on entend parler récemment, mais surtout la cohérence du souffle entre les deux narines qui, selon la physiologie du yoga, là encore, mène à activer une certaine union entre les aspects passifs et actifs, mental et vital, à observer les choses depuis un troisième plan qui accorderait le « et » sans polariser, comme cette autre voie entre mouvement et immobilité, émission et réception dont parlait Emma Biget dans le précédent épisode sur le mouvement. Alors Marine me parle du médian taoïste.
On dit en fait que l'espace médian, c'est par exemple l'air qu'il y a à l'intérieur d'une jarre qui rend possible le fait que la jarre existe. Cet espace médian, pour moi, il rend possible le mouvement de la vie. Il rend possible les adaptations à faire. Il rend une certaine forme de souplesse, en fait, à la manière dont on répond de nouveau aux choses, à la manière dont on s'adapte, à la manière dont on navigue dans la vie.
Cet espace médian, vital, c'est l'espace entre soi et un autre soi. C'est l'espace libre, ça a un milieu.
Pour moi, il y a quelque chose où ce temps profond me parle beaucoup et il est aussi celui, pour moi, du rythme biologique de la respiration, qui n'est pas celui qu'on a au quotidien, malheureusement. Je crois que c'est une respiration, c'est une seconde et demie ou deux secondes, alors qu'on... On pourrait aller évidemment jusqu'à 5 à 6 secondes de temps d'inspiration et de temps d'expiration. Et c'est vraiment crucial de rentrer dans ce temps-là pour les défis qu'on a aujourd'hui à qu'il nous faut faire face, dont on doit avoir la lucidité. Il y a quelque chose où, pour moi, qui me paraît essentiel, c'est à la fois donc de reconscientiser tout ce travail de respiration dont on a parlé, mais aussi de faire le lien avec la prise de connaissance. Pour moi, c'est indissociable, c'est-à-dire je comprends des choses sur comment fonctionne la vie, comment fonctionne le vivant, comment fonctionne la société, les situations géopolitiques, etc. Et puis je fais le lien avec ma respiration, avec mes rythmes biologiques, avec ce que je ressens à l'intérieur, etc. Et ça va être dans ces allers-retours de prise d'informations et de sensations, de connaissances sensitives, comme je dis, intérieures, où va se jouer des transformations possibles. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma croyance.
Prendre conscience que notre respiration, c'est non seulement un échange entre le dedans et le dehors, une manière d'accéder à l'énergie, à la vitalité dont nous avons besoin pour exister, mais aussi un espace d'interdépendance avec les autres vivantes et vivants, pourrait peut-être nous donner la force et la foi de défendre notre droit universel à respirer. Cet air du temps est un souffle qui nous dépasse, un souffle bien plus grand que nous. Ça respire en nous toutes et tous. Pour clore notre épisode, je vais vous proposer un exercice de souffle. Là où vous êtes, prenez quelques instants juste pour sentir le passage de l'air dans vos narines. Amenez tout d'abord votre attention à la pointe du nez, là où on sent les parfums. Vous voyez, juste à la pointe du nez, en haut des narines. Et sentez le passage de l'air à cet endroit. Et puis remontez le long des deux narines jusqu'à la racine du nez. À l'inspire, de la pointe du nez jusqu'à la racine et à l'expire, de la racine jusqu'à la pointe. Essayez de sensibiliser les parois internes de vos narines. En bas, en haut, sur les côtés et même le centre de chaque narine. Est-ce que vous sentez une différence de température entre l'inspire et l'expire ? Maintenant, amenez toute votre attention uniquement sur la narine droite. Sentez la circulation de l'air dans la narine droite. Puis uniquement la narine gauche. Toujours de la pointe à la racine à l'inspire et puis de la racine à la pointe à l'expire. Et maintenant, imaginez être l'un des seuls animaux à avoir une seule narine. Ils ne sont pas nombreux, il n'y aurait que quelques cétacés, baleines ou dauphins, à avoir conservé une narine. Eh bien, imaginez n'avoir qu'une seule narine, une narine centrale. Et inspirez le long de cette narine centrale, expirez le long de cette narine unique. C'était Être ressensible, épisode 3, Le souffle, avec les propos de Marine Chenet, chorégraphe, apnéiste, professeur de yoga, et Alexandre Robert, infirmier en santé planétaire, avec les témoignages de Marie et Adeline. Exercice du souffle, guidé par Mélanie Jouenne. Musique de Laurent Barden et Tigre d'eau douce, feat Bertrand Belin, Oiseau. Une création du collectif de La Turbine à retrouver sur le blog de laturbine.org, les plateformes d'écoute et notre radio partenaire Jet FM. Être ressensible, une série sonore en 4 épisodes, produite par le collectif de La Turbine avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, écrite et mise en voix par Mélanie Jouenne. Co-réalisé avec Julia Passot et Sofia Pavanini au montage.